Gueule.
Référence.
Mondial.
Référence.
International.
Oui.
Référence.
Provincial.
Exagère pas.
Local.
C'est Joanie Fortin qui vous parle tous les matins de comédie romantique. Très thème sur Netflix.
Et c'est une référence locale sur ce sujet.
Et rien d'autre.
Là, ça va-tu finir? T'avais parlé de quatre. C'était-tu la quatrième,
mais
ça?
Christian, il espère vraiment que ça finisse pas. Parce qu'elle nous l'a dit aussi, Joanie, très clairement, non? Comment sa vie...
Elle va bien oui, depuis que j'écoute des comédies romantiques.
Il m'a texté
un
matin
sur Netflix.
Il m'a dit « Je suis un peu fatigué
oui. ».
Il dit « Il y avait une nouvelle comédie, je suis un peu fatigué ».
D'accord. En fait, c'est que début du mois de novembre, on a annoncé quatre nouvelles comédies romantiques ajoutées sur Netflix. C'est la troisième parce que c'est la troisième semaine de novembre. Mais il y en a d'autres qui sont ajoutées par-ci par-là, des productions Hallmark également. Hier... The Merry Gentlemen, men, parce que c'est pas un seul gentleman, ce sont des gentlemen, avec en vedette un des frères Scott, Chad Michael Murray, le plus beau des deux, ça c'est mon avis, là, qui est la vedette masculine de ce film-là, un charpentier de la campagne.
Ah, du jamais vu!
Non, mais...
Du jamais vu!
Attends.
Puis là, il rénove en chess.
Mais là, ce qu'il faut dire, là, parce qu'il y a deux catégories de comédies romantiques de Noël qui éteignent sur Netflix. Quatre, tu vas me comprendre. Si vous êtes des néophytes, vous allez peut-être pas voir la nuance, mais c'est important d'être nuancé. T'as les comédies style Hallmark, vraiment, vraiment, vraiment qui éteignent, avec des faux décors. Tout est tiré par les cheveux. Il n'y a pas de justification pour quoi que ce soit qui arrive dans le film, et t'as les productions Netflix qui, quand même, respectent le synopsis vraiment d'une comédie romantique, puis ça se tient pour de vrai, OK? Tu sais, ça se pourrait jusqu'à un certain point. Et là, l'histoire, comprends-tu, c'est la danseuse de Broadway qui se fait mettre à la porte de sa troupe de danse un peu avant Noël en se faisant dire qu'elle est trop vieille.
Ben oui.
Fait que là, elle décide... de retourner dans son village pour voir ses parents que ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu. Et là, elle réalise que le cabaret que tient ses parents, l'espèce de petit bar du village, salle de spectacle du village, ils arrivent plus, ils sont plus capables de payer les billes parce qu'il n'y a plus de clientèle. C'est plus ça qui est populaire. Et que le seul moyen qu'ils ont, c'est d'engager un charpentier pour réparer le robinet et tout ça. Mais bref, fait que là, elle a décidé, ça y est, je crée un spectacle de danse masculine sexy pour le temps des fêtes. Le 30 000 $ que mes parents doivent, on va le ramasser.
Ben oui, puis là, le charpentier, c'est un charpentier.
Mais là, c'est
à manger,
ça l'affaire, c'est qu'à l'entrée dans le cabaret à un moment donné, et là, le charpentier sort en arrière du bar en bedaine.
Ben oui.
C'est Chad Michael Murray, je vous le rappelle. Eh non, mais excuse-moi, sont toutes ça sèche, ça n'a juste pas rapport.
Eh hey, oui, donc c'est vraiment...
un mannequin, là. Ce que j'ai compris, c'est que non seulement il est comédien, mais il est mannequin, lui, dans la vie, là. Aïe, aïe, là, tu sais. Ouf, là. Tu sais, le Hot Frosty, la semaine passée, c'était pas du tout mon genre de gars. Tu sais, je pouvais pas dire qu'il était pas bien fait, là.
Non.
Par exemple, il était vraiment bien fait. Mais là, c'est parce qu'en plus, t'ajoutes un frère Scott là-dedans. J'ai eu chaud. C'est super bien fait, pour vrai. C'est ma nouvelle comédie romantique qui est de Netflix. Puis pour de vrai, moi, j'aurais aimé ça être la comédienne qui joue.
Ouais, c'est ça. Je remarque que tu fais de la projection un peu quand tu regardes ça, toi. Hein?
Ben...
On dirait que t'aimerais ça que ça soit ta vie.
Je vis ma vie à travers... Ah non, mais moi, pour vrai, le Netflix m'approche en me disant « On te fait signer un contrat pour jouer juste dans des comédies romantiques quétaines de Noël. » Moi, je signe en haut, signe en bas, n'importe quelle, là. Hey,
mais pas de Hallmark.
Neuf.
En fait, Hallmark, là, pour vous donner une idée...
Ça paye combien? Ça aussi, ouais, ça fait partie.
Juste pour donner une image aux gens, là, on dirait que le scénario des films de Noël de Hallmark a été révisé par un curé.
Oui, c'est froid, c'est
drape, aseptisé,
c'est beige,
tu comprends?
C'est
très. Hein? Ça a été révisé par un curé, on dirait. Alors que celle de Netflix, on est ailleurs.
Puis là, il se frenche avant la fin dans ce film-là, je voulais juste dire. Puis là, pour vrai, le baiser, là, il est comme. Ah, oh, il est titillant, le géant. Ça... Oui, je pense que j'ai vécu ma vie à travers ce film-là hier.
Christian vient de m'écrire.
Ah oui.
Hé. Hey. For real.
Qu'est-ce qu'il a écrit?
Elle a juste oublié de mentionner que le gars, il me ressemble.
Ah. Oui, ben oui, c'est vrai qu'il ressemble un petit peu à Christian.
Et voilà!
Ah, les cheveux longs, puis tout, c'est vrai.
Un petit peu trop blond, par exemple. En tout cas, bref, c'est ça, c'est mon commentaire.
Mais sérieusement, ce que je retiens, t'es un peu trop into it, puis on dirait que tu te projettes dans un film romantique. C'est ce que moi, je crois dessiner.
Oui, je pense
là.
Que j'aimerais... Je pense qu'un jour, j'ai l'espèce de fantasme un jour de jouer dans une comédie romantique de Noël sur Netflix. J'aimerais full ça. Pour vrai, là, moi, j'embarque n'importe quand.
Moi, mon rêve, c'est d'être en direct de l'univers. Elle, c'est d'être la vedette, tu sais, le personnage d'un... de jouer dans une comédie romantique de Noël.
C'est ce que l'accomplissement d'une vie!
Avant de jouer dans une comédie Netflix, je te dirais de me préparer une petite circule. On va monter les étapes tranquillement. On va commencer par une circule, OK?
C'est bon.
Bon, fait que ça, c'est réglé. On serait rendu à une autre affaire dans l'émission.
Oui.
De toute beauté. C'est hier que ça a popé. En fait, je fais une histoire courte. Raphaël Nadal est un des meilleurs joueurs de l'histoire du tennis. Il prend sa retraite. Il est magané, Rafa. Puis là, il y a plein de commentaires, puis tout. Puis il y a des belles affaires. C'est une belle fin de parcours. Et hier, Roger Federer, qui, jour pour jour, a été son plus grand opposant dans sa carrière, a partagé une lettre extraordinaire. Ça a été repris, traduit dans toutes les langues possibles et impossibles. Fait que je commencerai le micro en vous résumant un peu là, le contenu de cette lettre-là d'hier sur les réseaux sociaux.
Oui, de Roger Federer à Raphaël Nadal. « Alors que tu t'apprêtes à être diplômé du tennis, j'ai quelques petites choses à te dire avant de me laisser emporter par l'émotion. Commençons par l'évidence. » Tu m'as battu. Beaucoup. Plus que je n'ai réussi à te battre. Tu m'as mis au défi comme personne d'autre ne pouvait le faire. Et tu sais quoi, Rafa? Tu m'as fait aimer le tennis encore plus. D'accord, peut-être pas au début. Après l'Open d'Australie en 2004, j'ai atteint la première place du classement pour la première fois. Je pensais que j'étais au sommet du monde. Et c'était le cas. Jusqu'à ce que, 2 mois plus tard, tu entres sur le court de Miami dans ta chemise rouge sans manches en montrant tes biceps et que tu me bats d'une façon impressionnante. Tout ce bruit que j'avais entendu à ton sujet n'était pas que du battage médiatique. Nous étions tous les deux au début de notre voyage et c'est un voyage que nous avons fini par faire ensemble. 20 ans plus tard, Rafa, je dois dire quel parcours incroyable tu as eu. Tu as rendu l'Espagne fière, tu as rendu le monde du tennis fier. Et là, il parle de plein d'événements qu'ils ont fait ensemble à travers les 20 années que ça a duré. Puis il dit, je te serai toujours reconnaissant, entre autres, de m'avoir invité au lancement de la Raphaël Nadal Academy. Ce que je comprends, c'est qu'on...
une école de tennis.
Une école, oui, c'est ça.
La totalité de l'investissement, c'est Rafa. Lui, c'est un projet qu'il caressait depuis longtemps. Il a pris son argent à lui, puis il a lancé une académie de tennis pour les gamins, mais c'est son cash à lui. Là.
Okay. Fait, puis c'est ça, il dit, je te serais toujours reconnaissant de m'avoir invité au lancement de ton académie. En fait, c'est moi qui s'est invité, mais je sais que tu es tellement poli que tu n'aurais pas pu me discarter. Mais tout ça pour dire que les enfants de Roger Federer s'entraînent à l'académie de Raphaël Nadal. Ça fait partie des beaux souvenirs dont il se rappelle. Et il conclut, Rafa, je sais que tu te concentres sur la dernière ligne droite de ta carrière. Nous en reparlerons lorsque celle-ci sera terminée. Et je veux que tu saches que ton vieil ami t'encourage toujours et qu'il t'encouragera tout aussi fort pour tout ce que tu feras ensuite. Rafa, je te souhaite bonne chance, ton fan préféré, Roger.
Que
c'est beau, hein?
Ça n'a pas de bon sens.
C'est vraiment beau.
Hier, quand ça a popé, puis là, on l'a abrégé.
Oui, c'est plus long que ça.
On a édité parce que c'est long, là, c'est un super beau texte, mais l'essentiel est là. L'essentiel étant l'admiration, l'hommage, étant le respect entre adversaires. C'est beau, là, ça aussi. Ils n'ont jamais joué dans la même équipe, les autres, là. Tu comprends?
Et puis il raconte entre autres là, tu sais, des fois qu'on s'est épuisé sur le terrain toi puis moi là, parce qu'on n'était pas capable d'arrêter de jouer, puis que rendu à la remise des bourses, on s'aidait mutuellement à monter sur le podium parce qu'on était trop épuisés. Non, non,
mais moi je serais curieux de savoir parce que mettons qu'on part de cette admiration, hommage, marque de respect incroyable, on devrait tous en avoir un ou une. Tu sais quelqu'un qu'on aurait aimé écrire cette lettre là. Tu sais, comme moi, je vais garder la lettre, je vais changer des mots puis des noms, là, mais je vais m'en servir. Tu comprends? On devrait tous avoir un Rafa.
Oui.
On devrait tous en avoir un. Puis j'aurais tendance à aller plus loin puis à vous poser la question. Les gens qui écoutent actuellement, en tenant compte de l'admiration, en tenant compte de l'hommage, de cette marque de respect-là, y a-tu un Rafa dans ta vie? N'as-tu un, toi? Ou si je te prends...
Bien, moi, quand tu me poses cette question-là, là, je faudrait que je te réponde, ça c'est peut-être cliché, mais mes filles. Ben oui, parce que je les observe beaucoup.
Ouais.
J'ai énormément d'admiration. Elles me poussent à me remettre en question tout moi-même
le tout le temps.
Tout le temps. À vouloir toujours élever mon niveau de jeu pour être à la hauteur de qui elles sont. Mm-hmm. J'observe leur façon de voir la vie et ça me fait apprendre, moi, comment je dois adapter la mienne. Tu sais, j'en ai une notamment, là, elle romance tout de sa vie. Jusqu'au moindre... Dans sa façon de faire son café, elle romance tout ça. Puis je suis comme... Puis pourquoi je fais pas ça, moi? Mm-hmm. Tu sais, mm-hmm. Puis je serais du genre à dire, c'est gentil de m'avoir invitée à tel événement, mais la vérité, c'est que je me suis invitée, puis t'es oui. assez gentille pour me dire... C'est correct, maman, tu peux être là.
Mais là.
Ah, c'est trop, ça, ça serait vraiment mes filles.
À part moi, Joe, t'as-tu quelque chose? Elle est bonne, hein? Je l'avais mis de côté.
Mais platement parlant, tu fais partie de ces personnes-là, Martin. Tu sais, mine de rien, au niveau professionnel, c'est toi qui m'as créé. Je te dois tout.
Pas ça, c'est ma plus belle
non,
création.
Non, mais hey, va donc chier. Mais pour vrai, tu sais, au niveau professionnel, je dois dire que c'est toi. Sérieusement, tu sais, j'ai cheminé personnellement à travers notre relation qu'on a là, depuis plus de presque 12 ans maintenant. Là. Mais oui, c'est au niveau professionnel, clairement et sans aucun doute, Martin, c'est toi qui m'as fait relever mon jeu. Mais j'oserais pas dire que j'étais côte à côte avec toi, tu comprends? Tu sais, Raphaël Nadal puis Roger Federer, ils étaient au même niveau puis ils ont cheminé ensemble. Moi, j'étais en bas, tu comprends? Puis tu m'as amené presque nez à nez avec toi. Puis tu sais, je t'enlève rien en disant ça, là, mais là, tu sais, je pense que je suis vraiment ailleurs par rapport à il y a 12 ans.
Okay, t'es ailleurs par rapport à il y a 2 ans.
Oui, mettons, tu sais. Mais j'oserais pas dire, c'est ça, qu'on était des rivaux, nécessairement, là. Mais tu m'as vraiment appris à monter mon jeu, à devenir une meilleure personne aussi. À travers les hauts et les bas, là.
Oui, oui.
Ça
n'a pas tout le temps été haut, hein?
Non,
hey, tu pourrais-tu me prendre une note pour demain, s'il te plaît?
Tu veux que je sorte ce micro-là pour le réécouter.
Oui, ça, c'est sûr. Mais une autre affaire, OK, de ne pas toujours attendre en troisième place avant de parler.
Pourquoi?
Ma première réponse, c'était mes gars. Fait que tu as brûlé le punch.
Oui.
Pour les mêmes raisons. Ils m'inspirent, ils me challengent.
Ben oui. Puis je ne veux pas parler de rivalité, mais parfois, ça, tu sais, dans la relation, c'est comme si on se cognait, là, tu sais.
Fait que là, je t'ai écouté parler, j'ai dit, ah, je vais dévier sur mes collègues. Parce que, mine de rien, s'il y en a deux qui me challengent dans la vie, c'est bien vous autres. Je me remets en question 4 fois par jour. Juste à cause que je côtoie des professionnels qui veulent le meilleur et qui veulent le meilleur pour moi.
Et
je le sais que c'est ça que vous faites.
Tellement.
Je le sais que c'est ça que vous faites.
Je suis contente de te l'entendre dire.
Non, je le comprends.
Oui.
Fait que là, l'autre réponse, tu l'as dit. Fait que là, m'a nommé quelqu'un, moi. Mario Tessier.
Ah, c'est beau, ça.
Oui, m'a nommé Mario
Tessier. Hein?
Parce que j'ai fait les 100 coups avec ce gars-là, puis on a toujours été... c'est toujours été une relation de travail au début, mais à travers tout ça, on a comme commencé à se côtoyer pour le vrai. Mm. Puis ce gars-là, je suis le premier fan de sa carrière. Parce qu'il y a eu des troubles, il y a eu une carrière extraordinaire avec les grandes gueules. Après ça, ça a été comme plus compliqué. Là, il est revenu, man, ça va bien. Il a son show, ça roule. Il a travaillé à deux, il a travaillé tout seul. C'est un gars de mon âge. Et il a une carrière extraordinaire. Il est impliqué dans sa famille. C'est un grand-papa. Tu comprends-tu? Moi, si je regarde Rafa puis Roger, je me dis, ça, c'est beau. Là.
Mm-hmm.
T'sais, puis je vais toujours être fan de ce qu'il accomplit. Écoute, il est en tournée partout au Québec puis il fait de la radio en plus. Fait que, t'sais, c'est quelqu'un que j'admire puis que je vais toujours souhaiter le meilleur là-dedans. Fait qu'on va ressortir ce micro-là puis il va repasser à un moment donné. Merci beaucoup.
Vous n'êtes jamais loin.
Ben, c'est moi quelqu'un, Colin. Gang le iPod Battle. Maud Carrier arrive en studio. Ben, c'est moi quelqu'un. C'est pas vrai, ce show-là. C'est arrangé.
L'iPod Battle, présenté par Michel Ferland, votre courtier Remax. Vous cherchez à vendre ou acheter? Contactez Michel Ferland, votre courtier proactif et déterminé. MichelFerland.ca.
Dans la jungle du matin, prenez un petit 5 minutes pour vous. Voici Dallaire le matin.
Yeah, ça, t'as boy, bon début de journée, bon matin. Hey, on se... Bonjour Maude.
Allô.
Docteur Carrier.
Oui.
On se questionnait, docteur en musique ou en musicologie?
Sur mon diplôme, c'est écrit PhD musicologie.
Pourquoi? C'est quoi la différence entre musicologie puis musique?
Ben, en fait, la musicologie, c'est l'étude de la musique, donc la science de la musique, si on veut. Alors que la musique, ben, c'est un terme large.
C'est plus cool, la musicologie.
Ben, ça fait plus big, là.
Vraiment.
Voilà. Docteur Carrier. Docteur en musicologie.
Fait que t'es comme une scientifique.
Exactement.
T'es docteur.
Je suis chercheuse.
Ah, c'est ça, j'adore.
J'ai vraiment mauvaise nouvelle pour Taylor Swift.
Comment ça?
La recette du succès est maintenant mise à jour. Tout le monde va pouvoir copier ce qu'a fait Taylor Swift. Tout le monde va être riche. C'est une question de temps. Non, mais on t'a posé la question. Tu sais, moi, le premier, là, Taylor Swift, j'admire ce qu'elle fait. Son beat, c'est pas mon beat préféré. Puis j'aime la pop, là. J'aime Dua Lipa, j'aime ça à mort, tu sais. Mais c'est pas toutes les tunes qui m'accrochent vraiment, tu sais. Mais c'est un mouvement économique quand elle débarque dans une ville. Fait que je suis un grand fan de tout ce qu'elle représente. Puis on t'a posé la question, y a-t-il une recette du succès?
Ben là, ça, je veux pas me prononcer sur « y a-t-il une recette du succès? » C'est quand même une question très large. Mais on peut, par contre, essayer de jaser de quelques pistes de réflexion qui expliqueraient, en fait, le succès de Taylor Swift particulièrement. Puis on est parti d'un article écrit par un musicologue de l'UQAM qui s'appelle Danick Trottier, qui est vraiment chouette. Il avait écrit des trucs aussi à propos des Cowboys fringants l'année passée que j'avais adoré. Puis la thèse qu'il suggère est vraiment une piste intéressante. Je vous le dis, là, je vous le cite. Dans le fond, selon lui, dit-il, une des raisons qui pourrait expliquer ce succès-là, c'est, ouvrez les guillemets, que Taylor Swift est passé maître dans l'art de transformer l'accroche narrative en acte de sincérité. Je vous explique un peu mon idée là-dessus, parce que l'article est très court, hein, pour ceux qui veulent aller le lire. En fait, bon, l'accroche narrative, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle en anglais le storytelling. Mm-hmm. Donc, c'est, dans le fond, une forme d'écriture de la chanson. T'sais. C'est une approche de songwriting qui est basée beaucoup sur ce qu'on appelle l'approche confessionnelle. L'approche confessionnelle, c'est un mouvement qui a émergé de poètes beatniks dans les années 1950. Aux États-Unis. Puis dans le fond, ça se traduit comment? C'est une approche d'écriture qui parle beaucoup à la première personne du singulier, qui raconte des choses intimes. On ne voyait pas beaucoup avant. Voyez-vous, moi, je l'ai étudié dans le cadre de ma thèse parce que je me suis penchée sur les singer-songwriters de la fin des années 60 aux États-Unis qui parlaient, qui se sont mis à aborder des sujets en chansons très intime, les ruptures, les petits...
Un peu comme la confidence, mettons.
Oui, c'est vraiment ça. Bien, la confession, oui. On pourrait le traduire, nous, en français, par confidence. Puis, dans le fond, moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que cette approche-là, c'est un peu le nerf de la guerre dans l'approche de Taylor Swift, parce que tout dans ce qu'elle propose à ses fans, tant dans son écriture que dans ce qu'elle est comme persona publique, rejoint un concept très lié à l'authenticité. L'authenticité qui, malheureusement, est un terme très galvaudé de nos jours, mais on aime donc ça. L'authenticité.
C'est attachant.
C'est attachant. Pourquoi? Justement parce que ça nous permet de développer des sentiments humains envers les personnes à qui on a affaire. On s'attache, on a de la compassion, de l'empathie. Donc, c'est un peu pour ça, en fait, que le fanbase, en bon français, de Taylor Swift est probablement aussi fidèle. Moi, ce que j'aime, je vais vous expliquer un peu, il y a un chercheur, un musicologue qui s'appelle Alan Moore, qui a proposé, en fait, que ce concept-là d'authenticité
présente trois facettes différentes. Puis ce qui est intéressant chez Taylor Swift, c'est qu'on retrouve ces trois facettes-là. Mm. Puis dans ce que propose Moore, il parlait que les artistes qui vont être capables d'aller rejoindre ces trois facettes-là du concept d'authenticité, bien, vont avoir une puissance là, de présentation authentique particulière. Fait que je vous les présente, en fait, ces trois facettes-là. La première, ça serait la capacité d'un artiste à offrir une impression de sincérité, d'intégrité, de proximité avec son public. Ici, on pourrait penser, mettons, à la manière dont Taylor Swift se présente en entrevue ou sur ses médias sociaux. Ensuite de ça, la deuxième facette, ça serait la dimension de partage d'expérience dans les chansons, dans laquelle l'auditeur se sent validé. Comment ça se passe? Bien, j'en ai parlé un petit peu tantôt par l'usage, par exemple, d'un registre de langue familier ou courant, la première personne du singulier, un effet de conversation privée sur des sujets intimes avec l'auditeur, puis qui peuvent être appuyés par la présence d'indications précises de temps, des noms aussi, elle a name drop beaucoup ses ex dans ses chansons, puis d'endroits, par exemple. Fait que là, ça permet de se situer, puis de se dire « Ah, c'est son histoire ». Parce qu'on ne saura jamais si les chansons de Taylor Swift
c'est son histoire ou pas.
Mais on y pense. Après ça, elle en fait ce qu'elle en veut. Fait que c'est ça qui est intéressant dans ce concept-là aussi, c'est qu'on a tendance à dire « Ah, cette personne-là est donc authentique ». Attention, ce que se présente cette personne-là paraît authentique.
OK, je pense que j'aime
c'est,
ça.
Ouais, oui, c'est une différence qui est le fun à faire, vraiment. Puis la troisième facette, c'est le respect de la tradition d'un point de vue de la performance. Ça, c'est un petit peu plus compliqué dans le cas de Taylor Swift parce qu'elle a touché à plusieurs styles. Par contre, on se rappelle qu'elle a commencé par le country, puis on la voit encore toujours avec sa guitare. Tu sais, il y a toujours des moments en spectacle où elle a sa grosse guitare country qu'elle avait à ses débuts. Fait qu'on pourrait faire le lien avec une espèce de respect de la tradition dans cette mesure-là. Alors, voilà, je pense que c'est pour ça que ça fonctionne autant dans le cas de Taylor Swift, c'est que toutes les conditions sont rassemblées.
C'est full intéressant, il y a plein d'informations, mais je suis toujours intrigué. Pourquoi tu apportes ta guitare?
Hey, c'est ça, je me suis demandé.
Parce que là, je me suis dit, comment elle va passer des trois points majeurs qu'on peut identifier de l'authenticité avec sa guitare dans les mains? C'est tout le temps ce lien-là, moi, que j'ai hâte de voir.
La vérité, Martin, c'est que j'importe ma guitare juste pour le show.
Ça sécurise, t'es bien avec ta guitare. C'est comme ton ami.
C'est parce que je sais que Martin aime ça. Hé,
hey, Seigneur, oui.
Mais là, ce que j'ai fait aujourd'hui, ça va s'adresser beaucoup aux auditeurs qui comprennent l'anglais. Les autres, faites juste vivre votre vie puis enjoyer la musique. Là. C'est ça que j'aurais envie de vous dire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit mash-up. Au lieu de faire un medley de 12 tunes, j'ai fait un petit mash-up de 3 chansons parce que j'avais envie qu'on ait quand même le temps d'entendre ces histoires-là.
Okay.
Fait que j'ai choisi, moi, 3 chansons de Taylor Swift qui sont mes préférées parce que mes préférées de Taylor Swift, c'est toujours celles qui sont le plus country folk et plus ancrées dans cette tradition-là, oui, justement. Good. C'est là que je pense qu'on a le plus accès à ces histoires. Donc, voilà. On y va?
OK, oui.
On y va full.
OK, on y va full, oui.
Ah, oui, je te donne un
petit micro pour la guitare.
Walk through the door with you. Yeah, it was cold, but something about it felt like home somehow. And I left my scarf there at your sister's house, and you still got me in your drawer even now. And I know it's long gone and that magic's not there no more, and I might be okay, but I'm not fine at all. Oh, oh, oh. 'Cause here we are again on that little town street. You almost ran the red 'cause you were looking over at me. Wind in my hair, I was there, I remember it all too well. We were both young when I first saw you. Close my eyes and the flashbacks died. Since standing there on the balcony in summer air, see the lights, see the party, the ball gowns, see you make your way through the crowd and say hello. Little did I know you were Romeo, you were throwing pebbles, and my daddy said, stay away from Juliet. I was crying on the staircase, begging you please don't go. And I say, Romeo, take me somewhere we can be alone. I'll be waiting. All there's left to do is run. You be the prince and I'll be the princess. It's a love story, baby, just say yes. Nice to meet you where you've been. I can show you incredible things. Magic, madness, heaven, sin. Saw you there and I thought, oh my God, look at that face. You look like my next mistake. Love's a game, wanna play. So it's gonna be forever. Oh, it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. Cause I know you love the players, you love the game.
Maude Carrier, fais du bruit, make some noise. Docteur Carrier, Docteur Carrier, t'as encore des demandes en mariage. À chaque fois que tu passes, tu te fais demander en mariage. C'est magnifique, ben, c'est incroyable. Magnifique. Maude, merci, on t'aime d'amour, tu le sais. Hein?
Merci à vous autres.
Good. Elle est docteur en musicologie. Elle s'appelle Maude Carrier, c'est notre... Je la connais.
Voici un petit bout.